Même si mon ami Georges m'avait averti très tôt, ce n'est qu'au printemps 2007 que j'avais commencé à voir apparaître des gros titres alarmants dans la presse financière. La deuxième plus grande société de fonds de placement immobilier, New Century Financial, avait déposé le bilan après un pic de défauts de paiement sur le marché immobilier des subprimes. Si le premier créancier du pays, Countrywide, avait échappé au même sort, c'était uniquement grâce à l'intervention de la Réserve fédérale qui avait approuvé un mariage précipité avec Bank of America. Inquiet, j'avais parlé aux experts économiques de mon équipe et prononcé un discours à la place boursière du Nasdaq en septembre 2007, dans lequel je dénonçais le manque de régulation du marché des prêts hypothécaires à risque et proposais un encadrement plus strict. J'avais peut-être un coup d'avance sur mes adversaires dans la course à la présidentielle sur cette question, mais beaucoup de retard par rapport à la vitesse incontrôlable à laquelle la situation à Wall Street était en train de s'aggraver. Au cours des mois suivants, les marchés financiers avaient vu se produire une fuite vers la qualité. Créanciers et investisseurs déplaçaient leur argent sur des obligations du Trésor garanties par l'État, restreignaient fortement l'accès au crédit et retiraient leurs capitaux de toute société dont les titres adossés à des créances hypothécaires présentaient un risque élevé. Pratiquement toutes les grandes institutions financières du monde étaient dangereusement exposées, ayant soit investi directement dans de tels titres, s'endettant souvent pour financer ses placements, soit prêter de l'argent à des sociétés qui avaient réalisé de tels investissements. En octobre 2007, Merrill Lynch avait annoncé des pertes de 7,9 milliards de dollars en lien avec les subprimes. Citigroup estimait que les siennes avoisinaient les 11 milliards de dollars. En mars 2008, le cours de la valeur boursière de la société d'investissement Bear Stearns avait dégringolé de 57 à 30 dollars en une seule journée, obligeant la Réserve fédérale à orchestrer son rachat au rabais par JP Morgan Chase. Personne ne pouvait prédire si, ou à quel moment, les trois grandes banques d'investissement restantes à Wall Street, Goldman Sachs, Morgan Stanley et surtout Lehman Brothers, qui voyaient toute leur capital fondre à un rythme alarmant, allaient connaître le même destin. Pour le grand public, il était tentant de voir dans ces événements un retour de bâton que tous ces banquiers et autres gestionnaires de fonds de pension cupides n'avaient pas volé. Tentant de rester les bras croisés en regardant ces sociétés couler et ces grands patrons avec leurs primes à 20 millions de dollars se retrouver forcés de vendre leur yacht, leur jet privé et leur maison dans les Hamptons. J'avais moi-même rencontré suffisamment de cadres de Wall Street pour savoir que beaucoup d'entre eux, mais pas tous, répondaient en effet à tous les stéréotypes de leur profession, satisfaits d'eux-mêmes et droits dans leurs bottes, obsédés par les signes extérieurs de richesse et totalement indifférents aux conséquences possibles de leurs décisions sur la vie des autres. Le problème, au milieu d'une telle panique financière et dans une économie capitaliste moderne, c'est qu'il était impossible de faire la distinction entre les bonnes et les mauvaises entreprises, ou de ne châtier que les irresponsables et les crapuleux. Que cela nous plaise ou non, nous étions tous dans le même bateau. Au printemps 2008, les États-Unis étaient officiellement entrés en récession. La bulle immobilière et l'argent facile avaient camouflé une pléthore de faiblesses structurelles dans l'économie américaine depuis une bonne décennie. Mais à présent, avec le pic des défauts de paiement, le resserrement du crédit, le déclin du marché boursier et la dégringolade des prix de l'immobilier, toutes les entreprises, grandes ou petites, couraient aux abris. Elles licenciaient, elles annulaient leurs commandes, elles différaient leurs investissements dans de nouvelles usines et de nouveaux systèmes informatiques. Et à mesure que les gens qui travaillaient pour ces entreprises perdaient leur emploi, ou voyaient la valeur de leurs biens immobiliers ou de leur plan d'épargne retraite se réduire comme peau de chagrin, ou accumulaient les retards de paiement sur leur compte à crédit et se trouvaient obligés de puiser dans leur épargne, eux aussi opéraient un repli stratégique. Ils renonçaient à acheter une voiture neuve, n'allaient plus au restaurant et remettaient leurs vacances à plus tard. Et à mesure que leur chiffre d'affaires déclinait, les entreprises continuaient de licencier et de restreindre toujours plus les dépenses. C'était un cycle classique de contraction de la demande, qui empirait de mois en mois. Les chiffres du mois de mars montrait qu'un prêt hypothécaire sur 11 faisait l'objet d'un défaut de paiement ou d'une saisie immobilière et que les ventes s'étaient effondrées sur le marché de l'automobile. En mai, le chômage avait augmenté d'un demi-point, la plus forte augmentation observée en un mois depuis les 20 dernières années. L'affaire était désormais entre les mains du président Bush. Sur l'insistance de ses conseillers économiques, il avait négocié un accord bipartite du Congrès pour débloquer une enveloppe de 168 milliards de dollars dans le cadre d'un plan de sauvetage de l'économie, prévoyant des exonérations et des remises d'impôts censées stimuler la consommation des ménages et donner un coup de fouet à l'activité économique. Mais les effets potentiels de cette initiative avait été sapé par la hausse du prix des carburants cet été-là, et la crise n'avait fait que s'aggraver. En juillet, les chaînes d'information avaient diffusé les images de clients désespérés qui faisaient la queue devant les guichets de la banque IndyMac en Californie pour retirer l'argent de leur compte. La banque n'avait pas tardé à déclarer faillite. La banque Wachovia, beaucoup plus importante, n'avait dû sa survie qu'à l'intervention du secrétaire au Trésor Paulson, qui avait eu recours à une exception au titre du risque systémique afin de lui éviter la faillite. Le Congrès, entre-temps, avait autorisé le déblocage de 200 milliards de dollars pour empêcher Fannie Mae et Freddie Mac, les deux géants privés qui, à eux deux, avaient garanti près de 90% des prêts hypothécaires américains, de couler à leur tour. Ces deux sociétés avaient été placées sous la tutelle de l'État et dépendaient désormais d'un nouvel organisme fédéral, la Federal Housing Finance Agency, FHFA, chargée de la supervision et de la réglementation du secteur immobilier. Et pourtant, en dépit de ces mesures d'une ampleur inégalée, on avait toujours le sentiment que les marchés étaient au bord du précipice, comme si les autorités jetaient des pelletées de gravier dans une faille qui s'était ouverte sous leurs pieds et qui ne cessait de s'élargir. Or, pour le moment en tout cas, le gouvernement était à court de gravier. Et c'est précisément la raison pour laquelle Hank Paulson, le secrétaire au Trésor américain, voulait me parler. Je l'avais rencontré pour la première fois à l'époque où il était encore PDG de Goldman Sachs. Grand, chauve, lunettes sur le nez, une attitude un peu étrange mais dépourvue de toute affectation, il avait passé l'essentiel de notre entretien à me parler de son engagement fervent pour la protection de l'environnement. Mais sa voix rauque, reconnaissable entre mille, trahissait aujourd'hui une grande fébrilité. C'était la voix d'un homme en proie à l'épuisement et à la peur. Ce matin-là, lundi 15 septembre 2008, Lehman Brothers, une entreprise dont la valeur était estimée à 639 milliards de dollars, avait annoncé qu'elle déposait le bilan. Le fait que le département du Trésor ne soit pas intervenu pour empêcher ce qui se présentait comme la plus grande faillite de toute l'histoire économique américaine était le signe que nous étions entrés dans une nouvelle phase de la crise. « On peut s'attendre à une très mauvaise réaction du marché », m'a dit Paulson, « et il y a de fortes chances que la situation aille de mal en pis. » Il m'a expliqué que le département du Trésor et la Réserve fédérale avaient tous deux jugé que Lehman Brothers était en trop mauvais état pour que le gouvernement vole à son secours et qu'aucune institution financière ne voulait racheter ses dettes. Le président Bush avait donné à Paulson l'autorisation de nous briefer, John McCain et moi, parce qu'un soutien politique bipartite serait indispensable pour pouvoir engager des mesures d'urgence supplémentaires. Paulson espérait que nous saurions l'un et l'autre prendre la mesure de la gravité de la situation et réagir en conséquence. Pas besoin d'un expert en sondage pour comprendre que Paulson avait raison de s'inquiéter des retombées politiques. Nous n'étions plus qu'à 7 semaines de l'élection. À mesure que le grand public prenait conscience de l'énormité de la crise, l'idée de dépenser des milliards de dollars du contribuable pour renflouer des institutions bancaires irresponsables serait accueillie avec à peu près autant d'enthousiasme qu'une épidémie de variole ou un dîner en tête-à-tête avec Oussama Ben Laden. Le lendemain, le département du Trésor, sous la houlette de Paulson, éviterait la catastrophe à Goldman Sachs et à Morgan Stanley en requalifiant ces deux institutions de sorte qu'elles puissent créer des branches commerciales éligibles aux dispositifs de protection fédérale. Mais rien n'y faisait. Même les sociétés les plus sûres et les mieux cotées se révélaient soudain incapables d'emprunter les sommes nécessaires pour financer les affaires courantes et les fonds communs de placement monétaire, jusqu'ici jugés aussi fiables et liquides que les actifs en espèces, commençaient à leur tour à vaciller. Pour les démocrates, il aurait été facile d'attribuer la responsabilité de ce fiasco au gouvernement en place. Mais la vérité était que bon nombre de représentants et de sénateurs démocrates avaient applaudi à la hausse du taux d'accession à la propriété grâce au boom des subprimes. Pour les républicains candidats à leur propre succession lors des élections secondaires de novembre, qui avaient déjà un pied dans la tombe en raison de l'impopularité d'un président issu de leur rang et de l'effondrement de l'économie, la perspective de voter en faveur de nouveaux renflouements à Wall Street semblait revenir à planter eux-mêmes le dernier clou de leur cercueil. Si vous devez prendre des mesures supplémentaires, ai-je dit à Paulson, je crois que votre plus gros problème viendra de votre camp, pas du mien. De nombreux républicains se plaignaient déjà, estimant que les incursions de l'administration Bush dans le secteur bancaire allaient à l'encontre des principes fondamentaux du conservatisme, qui prônait un interventionnisme d'État limité. Ils accusaient la Réserve fédérale d'outrepasser ses prérogatives, et certains avaient même le culot de critiquer les instances de régulation fédérale coupable selon eux de ne pas avoir décelé plus tôt les problèmes posés par le marché des subprimes, comme si eux-mêmes n'avaient pas passé les 8 dernières années à détricoter le plus grand nombre possible de réglementations financières. John McCain était demeuré, pour ainsi dire, muet sur toutes ces questions jusqu'à présent. Et j'ai enjoint à Paulson de rester en étroit contact avec mon adversaire tout au long de l'évolution de la situation. En tant que candidat désigné du Parti républicain, McCain ne pouvait pas se permettre le luxe de prendre ses distances avec Bush. Au demeurant, la promesse qu'il avait faite de reprendre le flambeau de la politique économique de ce dernier avait toujours été l'un de ses gros points vulnérables. Au cours des primaires, il avait avoué ne pas connaître grand-chose à la politique économique. Plus récemment, il avait donné davantage encore l'impression d'être déconnecté de la réalité en confiant à un journaliste qu'il ne savait pas exactement combien de maisons il possédait. Réponse 8. À en croire Paulson, les problèmes politiques de McCain ne faisaient que commencer. Je ne doutais pas que ses conseillers le presseraient de redorer son blason auprès des électeurs en se désolidarisant de tout nouveau plan de sauvetage financier élaboré par le gouvernement en place. Si McCain prenait le parti de ne pas soutenir les décisions de Bush, je savais que les démocrates, peut-être même mon propre staff, me mettraient la pression pour que j'en fasse autant. Mais au fond, alors que Paulson et moi terminions notre conversation, je savais déjà que la réaction de McCain, quelle qu'elle soit, n'avait aucune importance. Face à de tels enjeux, je ferai tout ce qu'il faudrait, indépendamment de toute considération politique, pour aider le gouvernement à stabiliser la situation. Si je voulais devenir président, me disais-je, je devais agir dès à présent comme tel. Comme prévu, John McCain a eu quelques difficultés à apporter une réponse cohérente aux événements qui se déroulaient à une vitesse dramatique. Cherchant à rassurer le peuple américain, il n'aurait pas pu choisir plus mal son moment, le jour même où la banque Lehman Brothers annonçait qu'elle déposait le bilan, pour prendre la parole lors d'un débat public retransmis à la télévision et déclarer « Les fondamentaux de l'économie sont forts. Nous l'avons aussitôt crucifié. Sénateur, de quelle économie parlez-vous » lui ai-je demandé un peu plus tard ce même jour, à l'occasion d'un autre débat public auquel je participais de mon côté. Dans les jours qui ont suivi, l'annonce de la faillite de Lehman Brothers a semé la panique sur les marchés financiers. Les bourses ont plongé. Merrill Lynch, au bord du gouffre, avait déjà négocié son rachat par Bank of America. Entre-temps, il s'était avéré que les 200 milliards de dollars prêtés aux banques par la Réserve fédérale n'avaient pas suffi à les renflouer. Outre les sommes englouties pour sortir Fannie Mae et Freddie Mac du marasme, 85 milliards de dollars supplémentaires avaient été dépensés pour financer en urgence la mise sous tutelle de l'État d'AIG, la gigantesque compagnie d'assurance qui avait garanti le marché des titres adossés aux subprimes. AIG était typique des sociétés trop importantes pour faire faillite, tellement impliquées à tous les échelons des réseaux financiers internationaux que son effondrement aurait entraîné des faillites bancaires en cascade, et même après l'intervention de l'État, elle avait continué à essuyer de lourdes pertes. 4 jours après la chute de Lehman Brothers, le président Bush et le secrétaire au Trésor Paulson, aux côtés de Ben Bernanke, président de la Réserve fédérale, et de Chris Cox, président de la Securities and Exchange Commission, SEC, ont annoncé lors d'une intervention télévisée que le Congrès allait devoir voter un projet de loi connu par la suite sous le nom de TARP, Troubled Asset Relief Program, ou Programme de sauvetage des actifs à risque, qui permettrait de débloquer de nouveaux fonds d'urgence d'un montant de 700 milliards de dollars. Tel était le prix à payer, estimait-il, pour échapper à l'Armageddon. McCain, sans doute pour se rattraper après sa bourde sur les fondamentaux de l'économie, a déclaré son opposition au renflouement d'AIG. Le lendemain, il a fait machine arrière. Sa position sur le projet TARP restait confuse. Il était opposé au sauvetage financier en théorie, mais pas forcément à celui-ci. Tous ces tours et détours nous ont grandement facilité la tâche pour démontrer que la crise était liée à une politique économique Bush-McCain qui favorisait les riches et les puissants au détriment des classes moyennes, et que McCain serait incapable de tenir la barre du paquebot Amérique dans les tempêtes économiques présentes et à venir. Je me suis néanmoins efforcé de tenir l'engagement que j'avais pris auprès de Paulson, en donnant pour instruction à mon équipe de s'abstenir de toute déclaration publique susceptible de mettre en péril les chances de l'administration Bush de faire approuver un plan de sauvetage par le Congrès. Aux côtés des conseillers économiques de notre campagne, Austin Goolsbee et Jason Furman, j'avais monté un groupe consultatif informel dans lequel figurait notamment l'ancien président de la Réserve fédérale, Paul Volcker, l'ancien secrétaire au Trésor de l'administration Clinton, Larry Summers, ainsi que le légendaire investisseur Warren Buffett. Tous trois avaient déjà connu de graves crises financières, et ils m'ont chacun confirmé que celle-ci était d'une magnitude inédite. « Si nous n'agissions pas rapidement, m'ont-ils expliqué, nous risquions de nous retrouver face à la possibilité bien réelle d'un effondrement économique. Des millions d'Américains privés de leur foyer et de leurs économies, et des niveaux de chômage jamais vus depuis la Grande Dépression dans les années 1930. Ces briefings m'ont été d'une aide inestimable, car ils m'ont permis de mieux comprendre les rouages de la crise et d'être en mesure d'évaluer les diverses solutions proposées. Ils m'ont aussi fichu une sacrée trouille. Quand je suis arrivé à Tampa, en Floride, en vue de me préparer pour mon premier débat avec McCain, je me sentais en confiance pour aborder les sujets économiques. Sur le fond, au moins, je savais désormais de quoi je parlais. Et je redoutais de plus en plus les conséquences qu'une crise prolongée pourrait entraîner pour les ménages partout en Amérique. Quand bien même mon attention n'aurait pas été accaparée par la menace de la crise, je n'aurais sans doute pas été enchanté à l'idée de passer 3 jours confiné dans une chambre d'hôtel pour me préparer à mon affrontement avec McCain. Mais compte tenu de l'inégalité de mes prestations pendant les débats des primaires, je savais que j'avais besoin de travailler. Heureusement, notre équipe avait recruté 2 avocats et vétérans de l'arène politique, Ron Klain et Tom Donilon, qui avaient déjà joué ce rôle de préparateur pour d'autres candidats à la présidentielle comme Al Gore, Bill Clinton et John Kerry. À peine étais-je arrivé qu'ils ont commencé à m'expliquer en détail comment le débat allait se dérouler et à passer en revue toutes les questions possibles et imaginables qu'on pourrait me poser. Avec Axe, Plouffe, la conseillère en communication Anita Dunn et le reste de l'équipe, ils m'ont fait répéter pendant des heures jusqu'à obtenir les réponses précises qu'ils voulaient entendre, à la virgule près. Dans le vieux Biltmore Hotel, où nous nous étions repliés, Ron et Tom avaient tenu à faire installer une réplique exacte de la scène du débat. Et ce soir-là, ils m'ont soumis à une répétition générale de 90 minutes, pinaillant sur les moindres détails de ma prestation, du débit de mes paroles aux inflexions de ma voix en passant par ma posture sur scène. C'était éreintant, mais indéniablement utile. Et quand je me suis enfin écroulé sur mon lit, j'étais certain que mes rêves allaient se dérouler en intro, 3 parties, conclusion. Malgré tous leurs efforts, cependant, les nouvelles de l'extérieur n'arrêtaient pas de m'arracher à la bulle Klain-Donilon. Entre 2 séances de répétition, je recevais les dernières mises à jour sur l'évolution du marché et l'avancée du projet de loi TARP défendu par la Maison-Blanche. Le terme « projet de loi » était toutefois un tantinet exagéré. Le texte présenté au Congrès par Hank Paulson consistait en 3 maigres pages remplies de formules passe-partout autorisant le Trésor à utiliser les 700 milliards de dollars du fonds d'urgence pour racheter des actifs à risque et, de manière plus générale, à prendre toutes les mesures qu'il jugerait nécessaires pour contenir la crise. Entre la presse et l'opinion publique, que cette somme exorbitante scandalisait, et les élus, démocrates et républicains confondus, qui rechignaient devant un texte aussi lapidaire, l'administration Bush, m'a dit Pete Rouse, était très loin de pouvoir réunir les voix suffisantes pour faire passer son projet. Harry Reid et Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, m'ont dit la même chose quand je leur ai parlé au téléphone. Tous deux étaient d'intraitables guerriers de la politique, qui n'hésitaient pas à cogner sur les républicains pour consolider leur majorité dès qu'ils le pouvaient. Mais, comme j'aurai l'occasion de le constater à maintes reprises au cours des années à venir, Harry et Nancy étaient disposés, parfois après avoir beaucoup râlé, à laisser les considérations politiques de côté lorsqu'un sujet d'importance vitale était en jeu. Sur le projet TARP, en l'occurrence, ils s'en remettaient à mon jugement. Je leur en ai fait part en toute franchise, à condition de l'assortir de certaines clauses visant à garantir qu'il ne s'agissait pas de donner un blanc-seing à Wall Street, il fallait que les démocrates contribuent à le faire voter. Et il convient de leur rendre ce mérite, tous deux se sont engagés à faire leur possible pour récolter le nombre de voix nécessaires au sein de leurs groupes parlementaires respectifs, à condition que Bush et les chefs de file de l'opposition républicaine fassent de même de leur côté. C'était une sacrée condition, j'en étais conscient. Un projet de loi impopulaire, une élection imminente, 2 partis qui, l'un comme l'autre, ne voulaient surtout pas donner de munitions à l'adversaire, c'était la recette idéale pour aboutir à l'impasse. Pour en sortir, j'ai commencé à envisager sérieusement la solution extravagante que m'avait suggéré mon ami Tom Coburn, sénateur républicain de l'Oklahoma. Une déclaration conjointe de John McCain et moi-même, appelant le Congrès à voter le projet de loi TARP, sous une forme ou une autre. En empoignant chacun une extrémité du bâton, nous pourrions évacuer la dimension politique de ce projet législatif et permettre à un Congrès à cran de prendre une décision raisonnable sans avoir à se soucier de son impact sur l'élection. Je ne savais absolument pas comment McCain réagirait à une telle proposition. Elle pouvait paraître fantaisiste, mais sachant qu'à moins de voter un plan de sauvetage, nous courions le risque de sombrer dans une nouvelle grande dépression, je me disais que ça valait le coup d'essayer. McCain et moi nous sommes parlé au téléphone tandis que je regagnais mon hôtel après un bref meeting de campagne. Il s'exprimait d'une voix calme, polie, mais prudente. Il était ouvert à la possibilité d'une déclaration conjointe, m'a-t-il dit, mais lui-même avait réfléchi à une autre idée. Et si nous suspendions tous les deux notre campagne? Si nous reportions le débat pour rentrer à Washington et attendre que le plan de sauvetage soit voté par le Congrès? Même si j'avais un peu de mal à imaginer en quoi un repli du grand Barnum de la campagne présidentielle à Washington pourrait servir à quoi que ce soit, j'étais heureux de constater que McCain était apparemment prêt à s'extraire de la mêlée politique quotidienne pour aider à faire passer un projet de loi. Prenant soin de ne pas avoir l'air d'écarter trop vite sa suggestion, j'ai proposé à John, et il a accepté, que nos directeurs de campagne dressent ensemble une liste d'options envisageables, puis que nous nous rappelions dans une heure ou deux. « Bon, on avançait », me suis-je dit en raccrochant. J'ai ensuite appelé Plouf pour lui demander de se mettre en contact avec Rick Davis, le directeur de campagne de McCain. Quelques minutes plus tard, en arrivant à l'hôtel, j'ai trouvé un Plouf furibond. Il venait de raccrocher avec Davis. McCain s'apprête à donner une conférence de presse, a-t-il dit, pour annoncer son intention de suspendre sa campagne et de rentrer à Washington. Quoi? Mais je viens de lui parler il y a à peine 10 minutes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'a pas été réglo avec toi, c'est tout. Davis affirme que McCain ne participera même pas au débat, à moins qu'un plan de sauvetage ne soit voté dans les 72 heures. Il dit que McCain va publiquement t'appeler à suivre son exemple et à arrêter de faire campagne parce que, tiens-toi bien, le sénateur McCain pense que les considérations politiques devraient rester à l'arrière-plan pour le moment. Plouf bouillonnait de rage. On aurait dit qu'il avait envie de mettre son poing dans la figure de quelqu'un. Quelques minutes plus tard, j'ai regardé McCain faire son annonce, la voix mielleuse d'inquiétude. Il était difficile de ne pas éprouver à la fois de la colère et de la déception. Avec un peu d'indulgence, on pouvait penser à la rigueur que John avait réagi par méfiance. Craignant que mon idée de déclaration conjointe ne soit un stratagème pour lui damer le pion, il avait décidé de me prendre à mon propre jeu. Une interprétation moins indulgente et qui faisait l'unanimité dans mon staff n'y voyait qu'une nouvelle esbroufe irréfléchie destinée à sauver du désastre une campagne aux abois. Esbroufe ou pas, toute une pléiade de fins connaisseurs des arcanes politiques de Washington s'accordait à dire que le coup de McCain était un coup de maître. Sitôt les caméras éteintes après sa conférence de presse, nous avons été bombardés de messages angoissés de divers consultants démocrates et autres partisans dans la capitale, nous conjurant de suspendre la campagne afin de ne pas céder notre avantage en pleine crise nationale. Mais, tant par expérience que par tempérament, nous n'étions pas enclins à écouter la sagesse populaire. Non seulement j'étais d'avis que rentrer à Washington pour nous prêter tous les deux à cette petite comédie serait rendre un bien mauvais service au projet TARP, mais je pensais surtout qu'il était plus important que jamais, précisément en raison de la crise financière, que notre débat ait lieu, afin que les électeurs puissent entendre ce qu'avaient à dire les deux hommes qui se disputaient le rôle de capitaine pour les aider à naviguer dans ces eaux troubles. N'empêche, opposer une fin de non-recevoir à l'appel de McCain semblait un énorme coup de poker. J'ai rassemblé mon équipe autour de moi et j'ai demandé si quelqu'un était en désaccord avec mon analyse. Tout le monde a répondu non sans la moindre hésitation. J'ai souri. Bon, eh bien voilà. Une heure et demie plus tard, je donnais à mon tour une conférence de presse pour annoncer que je ne suspendrais pas ma campagne. J'ai précisé que j'étais déjà en contact régulier avec Hank Paulson et les présidents des deux chambres du Congrès et que j'étais prêt à m'envoler pour Washington à tout moment si nécessaire. Puis j'ai improvisé une petite phrase qui allait faire la une des comptes rendus de ma déclaration dans les médias. Les présidents vont devoir être capables de gérer plus d'une chose à la fois. Nous ne savions pas du tout comment les électeurs allaient réagir, mais nous pensions tous avoir pris la bonne décision. À peine nous étions-nous réunis pour discuter des prochaines étapes de notre stratégie, que Plouf a reçu un email de Josh Bolton, le directeur de cabinet de Bush, lui demandant de l'appeler. Plouf est sorti en trombe de la pièce. Il est revenu quelques minutes plus tard, les sourcils froncés. Apparemment, McCain aurait demandé à Bush d'organiser une réunion demain à la Maison Blanche avec lui, toi et les chefs du Congrès, pour essayer d'aboutir à un accord sur le TARP. Bush devrait t'appeler d'ici peu pour t'inviter aux réjouissances. Plouf a secoué la tête. « Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? » a-t-il dit.